carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Dreyros ou Dreyros en grec, le nom n'est encore connu que de quelques initiés, mais il désigne un site archéologique promis à devenir l'un des plus importants du monde grec. Et Canal Académie a eu le grand privilège de le visiter au cours de l'été 2010, en compagnie de deux guides éclairés, Madame Vasso Tzografaki et Monsieur Alexandre Farnoux de la Sorbonne. Alexandre Farnoux est aujourd'hui venu dans nos studios pour nous présenter ce lieu et nous parler de cette fabuleuse découverte. Alexandre Farnoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'époque minoenne, professeur d'archéologie à la Sorbonne, membre de l'école française d'Athènes. Et vous avez participé à de nombreuses fouilles importantes en Grèce et en Crète en particulier. Et on ne peut pas omettre de mentionner que l'Académie des inscriptions et belles-lettres vous a remis pour vos travaux le prix du Ménil en 2010, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
On peut lire aussi de vous un ouvrage sur l'île de Délos dans les Cyclades. Et vous avez largement contribué à rendre célèbres des sites en Crète comme Malia ou Lato, sans parler de Knossos, qui est d'ailleurs un de vos livres sur Knossos, qui sont eux des sites minoens par rapport à Dreyros, mais...
Oui, Lato est un site plutôt d'époque hellénistique, mais les sites de Malia et le site de Knossos sont de grands sites de la civilisation minoenne du 14e siècle avant Jésus-Christ, enfin 16e, 14e siècle avant Jésus-Christ, oui.
Qui sont quand même aujourd'hui assez connus, en tout cas par les touristes aussi, qui
parmi les sites les plus fréquentés.
Largement, Crète, oui. Mais nous allons aujourd'hui donc nous concentrer sur votre dernière exploration, Dreyros. C'est près de Néapolis, qui était l'ancienne capitale de la région du Lacity, du plateau de Lacity. Et pourriez-vous tout de suite nous évoquer peut-être son cadre géographique et faire rêver nos auditeurs en décrivant cette belle région dans le golfe du Mirabello, où se trouve la capitale aujourd'hui de Agios Nikolaos, et ce charmant petit village de pêcheurs Elunda,
oui,
par exemple.
Oui, vous faites déjà rêver, j'imagine. C'est un paysage de montagne avant tout, puisque nous sommes sur les contreforts du plateau du Lacity. Le plateau de Lacity qui culmine à 2000 mètres, et les contreforts sont assez abruptes, avec une végétation plutôt rare, et de grandes vallées qui sont orientées est-ouest, avec un accès à la mer qui n'est pas très facile, sauf dans la région d'Agios Nikolaos que vous signaliez, et près du port d'Elunda, qui se trouve tout à fait au nord. Alors on est sur la côte nord de la Crète, c'est une région qui est une région plutôt à l'écart des circuits touristiques, parce que l'essentiel du tourisme s'est développé sur la côte nord, près d'Héraklion, et à l'est et à l'ouest d'Héraklion. C'est une zone qui est une zone plutôt agricole et artisanale, en ce moment, et c'est une zone qui est d'abord frappée par le relief constamment, puisque le site de Dreyros est un site de montagne, avec une agriculture méditerranéenne habituelle d'oliviers, de vignes et de céréales.
Oui, donc assez peu peuplé, enfin il y a peu,
oui,
de
peu
villes.
De monde. La ville de Néapolis est 5000 habitants.
De villages, oui.
Oui, c'est 5000 habitants et c'est une ancienne capitale, donc c'est la plus grande ville de cette région.
Là, vous parlez de Néapolis.
De Néapolis, oui.
Oui. Qui est d'ailleurs votre quartier général.
Qui est le quartier général pour l'ensemble de la mission.
Et on va voir ça plus en détail tout de suite, parce que je voudrais que vous nous parliez peut-être maintenant de l'histoire de la ville antique de Dreyros, qui est une cité grecque, pas minoenne. Comme vous venez de commencer vos descriptions, c'est sur une montagne.
Alors c'est installé sur une montagne à deux sommets, sur un qui présente deux sommets. Alors c'est des sommets pas très élevés, c'est 300 mètres et 400 mètres d'altitude, donc c'est des toutes petites montagnes. Et la ville antique est installée sur cette montagne à double sommet qui constitue deux acropoles au milieu, entre les deux, entre lesquels se trouve le centre politique de la cité, avec un temple et une petite agora. Et tout autour, sur les pentes, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, se développe la ville dans un tissu urbain de montagne, d'ailleurs, qui n'est pas très facile à installer et à entretenir. Mais la ville se développe tout autour.
Est-ce qu'on peut établir une chronologie du site ? Alors, par exemple, à quelle date remontent les premières constructions ? Parce que quand on fait quelques recherches, on trouve aussi bien l'âge du fer que l'époque hellénistique.
Oui, les traces d'habitation, d'occupation les plus anciennes remontent à la fin de l'âge du bronze, par quelques tombes découvertes dans une nécropole en contrebas du site, dans la partie nord. Et puis, les niveaux d'occupation véritablement sur le site remontent à l'époque archaïque. Et avec les derniers travaux que nous avons faits, remontent même un petit peu plus haut, probablement au proto-géométrique, c'est-à-dire à 1000 à peu près avant Jésus-Christ, 1000 ou 900 avant Jésus-Christ. Et la ville est occupée de manière sans doute continue. Pour l'instant, nous n'avons pas de traces très précises pour les siècles qui suivent. En revanche, nous avons de très belles traces d'occupation pour la toute dernière phase, qui est l'époque hellénistique, c'est-à-dire 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. On fait l'occupation de l'ensemble du site.
Et il y a des époques différentes pour les différents sites, par exemple entre l'Agora ou l'Acropole ou le fameux temple.
Oui, alors effectivement, le site est très étendu. Hein, il fait à peu près 40 hectares, donc nous sommes loin d'avoir exploré tout, bien sûr, puisque nous sommes au tout début de l'exploration. Donc actuellement, les niveaux d'occupation se répartissent sur plusieurs secteurs. Nous avons même un secteur d'occupation assez récent, puisque sur l'une des acropoles, il y a une très belle occupation d'époque byzantine qui a livré de très belles céramiques cet été. Dans l'Agora, nous avons la présence d'un temple qui remonte au 7e siècle avec de la sculpture en bronze qui fait parmi les plus beaux morceaux de sculpture de bronze fournis par la sculpture de cette époque en Grèce.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'importance de la cité à l'époque et de Alors, sa démographie ?
La cité de Dréros, c'est une cité curieuse parce qu'elle est très peu connue par les textes. Son nom apparaît uniquement dans un traité de grammaire, la fin de l'époque hellénistique, du début de l'époque impériale, pour des raisons grammaticales. Et la cité n'est mentionnée par aucun historien et aucun géographe. Donc c'est une cité simplement. Son nom apparaît dans des inscriptions, en particulier dans des inscriptions qui ont été trouvées sur place. Et c'est une cité qui, en tant que telle, du coup, n'a pas eu de rayonnement autre que dans le cadre de l'île. Alors c'est ça qui nous intéresse justement. C'est que c'est une petite cité crétoise, bien installée, plutôt bien conservée, et qui présente tous les aspects d'une cité avec son centre politique, son développement urbain, sa campagne et sa nécropole.
Oui, c'est-à-dire, on voit aujourd'hui de bons vestiges de l'Agora.
Oui, alors l'Agora.
De bons restes de très bons l'Agora, restes de l'Agora. On voit même une route.
Oui, dans c'est la campagne de cette année qui a permis de dégager une nouvelle partie de l'Agora avec des gradins très bien conservés. Et derrière, effectivement, une très belle voie qui, pour l'instant, est dégagée que sur quelques mètres et qui nous mène vers le temple.
Vers le temple, qui aujourd'hui est un peu...
Alors le temple a été fouillé les années 30, hein, donc il a été protégé par la construction d'une petite cabane dessus, et puis ensuite il n'y a plus de travaux, le service archéologique a entretenu à peu près les ruines comme il a pu, mais il y aurait un immense travail de restauration et de remise en valeur de ce site. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes revenus travailler avec nos collègues grecs sur ce site.
On va parler de l'histoire des fouilles dans un prochain chapitre, parce que, pour bien faire comprendre à nos auditeurs la différence entre l'histoire de la ville, donc, que vous êtes en train d'explorer, et l'histoire des fouilles, qui est un autre chapitre, bien sûr. Alors, pour rester donc dans cette ville de Dréros, que vous avez le grand mérite de creuser encore jusqu'à la rendre, comme je disais au début, célèbre, parce qu'elle va devenir célèbre, sûrement. On a vu à peu près l'importance de la cité, qui a curieusement disparu.
Elle est aujourd'hui entièrement invisible, à la différence de Lato, où on aperçoit toujours les ruines de la ville en se promenant quand on a l'œil un peu exercé. La ville de Dréros a entièrement disparu, elle est très enfouie pour toutes sortes de raisons, et donc elle s'est effacée complètement de la mémoire des hommes, sauf des hommes de la région. Il a toujours été connu dans la région que sur cette montagne, on trouvait des choses. Mais les maisons ont disparu sous d'immenses pierriers, sous une forêt assez dense, qui fait qu'on a oublié jusqu'au souvenir de la ville.
Alors pourquoi on a construit cette ville quand même, qui était significative quand même à l'époque, sur un site d'abord si éloigné de la côte, donc d'un port, et si difficile d'accès, et qui était construite en terrasse.
En terrasse,
donc
oui.
Difficile pour l'agriculture.
Alors en Crète, c'est un phénomène fréquent de voir des cités pour les époques antérieures à l'époque hellénistique, à la fin de l'époque hellénistique, des cités installées dans la montagne. C'est un phénomène fréquent. La Méditerranée n'est pas sûre, les rivages ne sont pas sûrs, et donc le meilleur moyen de vivre à peu près à l'abri des surprises qui arrivent de la mer, c'est de vivre en montagne. Donc les cités crétoises connaissent un schéma d'implantation en montagne de manière assez constante pour toute l'époque archaïque, classique et le début de l'époque hellénistique.
Oui, mais là c'est particulièrement éloigné.
Oui, alors on est loin. Alors si on est loin aussi, la raison qui l'explique, c'est qu'on est loin de la mer, mais on est parfaitement implanté sur le réseau routier qui dessert la crête centrale et la crête de l'Est. C'est-à-dire les deux seules routes qui permettent de passer vers la crête de l'Est, quand on vient de la crête centrale, passent au pied de Dréros. Et donc l'une des raisons de la présence de ce site si loin de la mer et si enclavé, c'est simplement le contrôle de ces routes terrestres qui permettent aux Crétois de circuler d'Est en Ouest dans une île qui est très très longue, hein, puisque c'est une île entièrement en long... qui s'étale sur...
Oui. Et donc là, vous parlez de quelle époque ?
Alors là, c'est les routes de circulation telles qu'on les connaît. C'est des routes qui ont été vraisemblablement mises au point à l'âge du bronze et qui ont continué d'être utilisées ensuite aux époques archaïques et classiques. Et elles vont être prises, on le constate très bien quand on s'intéresse à ce qu'on appelle les caldérimes d'époque ottomane, c'est-à-dire les chemins empierrés utilisés pendant l'occupation ottomane de l'île. Ces chemins empierrés des Ottomans et des Turcs reprennent en gros le schéma routier de l'époque antique.
Mais ces routes n'existent plus aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, elles ont été en partie effacées par la construction d'un réseau routier nouveau. mais pas partout. Quand on a un peu la curiosité et qu'on aime la randonnée, on retrouve dans des zones de montagne de magnifiques sentiers entièrement empierrés sur plusieurs kilomètres et qui font partie des très beaux trésors de la crête de montagne.
Tout à l'heure, on a rapidement touché le fait que cette ville a disparu, en tout cas des manuels d'archéologues, mais elle a connu une fin fulgurante, dramatique.
Alors une fin tragique, oui, tragique. Comme on en connaît à travers les récits d'historiens, c'est pas un cas isolé, mais on en a un cas vraiment très concret. Les cités crétoises se sont opposées entre elles dans une sorte de guerre civile perpétuelle aux époques classiques et au début de l'époque hellénistique que nous connaissons assez bien parce que ces guerres ont fait l'objet de nombreux traités pour essayer d'y mettre un terme. Et nous savons que les cités crétoises se sont beaucoup combattues les unes les autres. Edréros était particulièrement en butte à deux voisines, une cité qui s'appelle la cité de Lithos, qui se trouve au sud d'Héraclion et qu'on situe à peu près bien aujourd'hui, et puis la cité qui se trouve sur le bord de la mer, la cité de Milato, ainsi que la cité d'Elunda qui se trouve de l'autre côté vers l'ouest. Et Dréros, qui n'a pas hésité à les attaquer à plusieurs reprises probablement, a finalement été vaincu par la cité de Lithos et entièrement détruite. Et nous pensons maintenant que cette destruction s'est accompagnée de l'exil de toute la population et de l'interdiction de venir habiter à nouveau sur ce site. Donc le site a été entièrement rasé, abandonné, plus aucune occupation à la fin de l'époque hellénistique et ensuite à l'époque impériale. Et il faudra attendre l'époque byzantine pour voir réapparaître une occupation du site.
Et quand vous dites entièrement rasé, sous quelle forme ?
Ce que nous constatons vraisemblablement, c'est qu'ils ont abattu, bon, c'est un point sur lequel nous allons travailler encore dans les années qui viennent, ils ont dû abattre à peu près systématiquement les murs des maisons pour empêcher les gens de revenir et de récupérer du matériel.
Par le feu ou...
Non, on a très peu de traces d'incendie. En revanche, nous sommes très surpris, une fois que nous avons déplacé des mètres cubes de pierre, nous tombons sur la totalité du matériel des maisons en place.
Donc les fondations persistent.
Oui, ils ont abattu les murs comme on fait. Vous faites tomber la toiture, puis ensuite vous tirez les murs les uns après les autres.
Et la population aurait été chassée.
Et la population est chassée.
Et on ne trouve pas trace.
C'est un phénomène qu'on connaît assez bien. Hein. Des cités qui sont défaites dans des combats en pleine, et ensuite les vainqueurs édictent des règles extrêmement dures. Et parmi les règles les plus dures, il y a l'interdiction de réhabiter la cité vaincue et de partir en exil. Alors, on a des éléments qui nous montrent que probablement les Dréréens sont partis en Asie mineure. Nous avons deux mentions de noms propres qui sont suivies d'un ethnique, et l'ethnique correspond au nom de la cité de Dréros. Et ce sont des Grecs qui sont installés en Asie mineure à la fin d'époque hellénistique. Donc il est possible là qu'on ait la trace de migrants venant de Dréros qui sont partis s'installer en Asie mineure, comme c'est un phénomène relativement bien connu par ailleurs pour d'autres cités.
Écoutez, tout ça est totalement fantastique, on peut dire.
Ah ben, c'est sûr, quand on voit le site comme il est.
Comme saga d'une ville. Écoutez, je vous propose une courte pause, évidemment avec la musique grecque, ou crétoise plus particulièrement. Et après, je vous propose de parler donc de l'histoire des fouilles, proprement dite. Alexandre Farnoux, vous voulez nous parler peut-être maintenant de l'histoire des fouilles de ce site, parce que d'après mes recherches, les premières fouilles ont été commencées au XXe siècle.
Oui, au XXe siècle. Alors, il y a eu une première
abandonnée.
Et ensuite, oui. Alors, il y a eu d'abord une première découverte en 1855 d'une grande découverte fortuite par des paysans travaillant des champs sur une des acropoles. Ils ont mis au jour une grande inscription qui a fait sensation, car c'est une très longue inscription qu'on a identifiée comme étant le serment des jeunes Dréréens, et qui est un très beau texte dans une écriture ancienne, mais qui est vraisemblablement un texte de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a attiré l'attention des spécialistes sur ce site, d'autant plus que l'inscription donnait le nom de la cité Dréros. À la suite de
donc
cette découverte,
ce sont des paysans
qui ont trouvé la première pierre. Oui, Alors cette inscription a beaucoup intéressé les spécialistes. D'ailleurs, la pierre maintenant est au musée épigraphique d'Istanbul, puisqu'à l'époque, les découvertes partaient à Istanbul. Mais les érudits occidentaux ont étudié la pierre, ont étudié l'inscription, et ont décidé, ont compris qu'il y avait une cité qui se trouvait sur cette montagne. Alors il faut attendre ensuite 1917 pour voir les premières fouilles systématiques organisées par un membre du service archéologique grec à l'époque, qui s'appelle Xanthoudidis, qui mène des fouilles systématiques à proximité de l'endroit où a été trouvée l'inscription pour essayer de comprendre la raison de la présence de cette pierre. Et il dégage là un grand bâtiment qu'il identifie d'abord comme un temple, et puis plus tard on l'identifiera plutôt comme un bâtiment public de réunion des hommes. Donc on appelle l'Andreion pour cette raison, qui est un type de bâtiment public et mentionné par Aristote pour les cités crétoises. Xanthoudidis finit sa fouille, et puis à nouveau les fouilles s'arrêtent, et il faut attendre l'arrivée d'archéologues français envoyés par l'école française d'Athènes, qui à l'époque a décidé de mener un peu systématiquement des recherches archéologiques sur toute cette région de la Crète, dans les contreforts nord du Lacity, qu'on appelle donc le Mirambello, près d'Aios Nikolaos, et d'explorer un peu tous les sites potentiels présents dans cette région. Et parmi ces sites, Dréros, et donc deux membres de l'école française d'Athènes, on est en 1932, Henri Van Effenter et Pierre de Margne, entreprennent des fouilles, d'abord en contrebas de l'acropole pour trouver la nécropole, et ensuite sur le site lui-même, dans la partie qui va se révéler être l'agora de la cité. C'est Pierre de Margne qui va mettre au jour les premiers gradins de cette agora.
Ah oui, qui a été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je crois
effectivement,
en,
oui,
Pierre de Margne, 1932
oui.
D'ailleurs.
Oui, effectivement.
Oui, oui. Enfin, donc l'année où il a commencé les premières fouilles à Dréros.
C'est ça, c'est ces années-là où il a travaillé. Et il est revenu ensuite en 1936 à nouveau, faire de nouvelles fouilles. Et les nouvelles fouilles ont été suscitées par la découverte, là encore fortuite, de trois statues en bronze martelé d'une technique de construction de la statuaire de bronze très particulière qu'on appelle le sphérélatone, qui sont des plaques de bronze martelées sur une âme en bois et qui représentent la triade apollinienne, Apollon, Artémis et Leto. Cette découverte fait énormément de bruit parce que c'est les statues en bronze les plus anciennes de cette technique que nous possédons aujourd'hui encore, et donc ça fait rentrer Dréros dans tous les manuels d'histoire de l'art immédiatement parce que c'est le début, en quelque sorte, de la grande statuaire grecque. Et c'est pour ça que le site, qui était totalement inconnu, devient très vite, surtout Pierre de Margne, dans Les naissances de l'art grec, qui est un volume de synthèse qu'il a publié dans l'Univers des formes, il consacre de très longues pages à ces trois chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui exposés au musée d'Héraclion.
Vous venez de mentionner donc l'ouvrage de Pierre de Margne, La naissance de l'art grec, l'Univers des formes, auquel vous avez participer.
Oui, donc j'ai assuré la réédition en faisant une nouvelle préface. Oui, une nouvelle préface, c'est une collection qui est une très belle collection d'histoire de l'art qui existe en France depuis très longtemps et qui a fait l'objet d'une réédition sous un format plus petit avec de nouveaux documents. Et on m'a demandé d'en faire la mise à jour. Et donc j'ai fait
la. Qu'on trouve chez Gallimard.
Qu'on trouve chez Gallimard, voilà. Qui est publié chez.
De toute façon, nos auditeurs trouveront toutes les références bibliographiques sur l'écran, bien sûr.
Alors, à la suite de cette découverte fortuite, c'est l'archéologue grec Spyridon Marinatos qui intervient en fouille de sauvetage pour essayer de comprendre que faisaient ces statues. Là, et il découvre à ce moment-là le temple de Dréros, qui est un grand bâtiment du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est parmi les temples les plus anciens que nous ayons, avec un autel, des offrandes et ces figurines qui vraisemblablement, enfin ces statues qui font une quarantaine de centimètres de hauteur, qui vraisemblablement constituaient les statues de culte du temple. Alors les Français, pour accompagner cette découverte de Marinatos, eux se sont chargés d'explorer les alentours pour essayer de voir comment ce temple à proximité de l'Agora s'articulait, dans quel projet d'urbanisme et dans quel. Et c'est à cette occasion que Pierre de Margne a mis la main sur une énorme citerne qui était entièrement masquée par les terrasses et la végétation, très profonde. Elle fait 9 mètres de profondeur, plus de 15 mètres de long, sur 7 mètres de large. Enfin, c'est vraiment un très, très grand.
On voit très bien aujourd'hui.
Très bien maintenant que nous avons reprise. Et cette citerne a été entièrement bouchée, vraisemblablement à l'époque assez tardive, on ne sait pas quand exactement. Mais parmi les blocs qui fermaient cette citerne, Pierre de Margne a eu la chance de sortir plus d'une quinzaine d'inscriptions. Et parmi ces inscriptions, une inscription très importante concernant le régime démocratique de la cité de Dréros.
Ah oui, on va peut-être voir ça un peu plus en détail parce que c'est vraiment très très important cette stèle. Donc,
oui, tout à fait. C'est une des lois démocratiques les plus anciennes que nous possédions et que nous possédons toujours. Hein. Elle est datée du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est une inscription qui est très courte, hein, elle fait 2 lignes seulement, mais elle prend une disposition qui est fondamentale dans un régime démocratique. Elle empêche la réélection d'un magistrat principal, qu'on appelle les cosmes dans les cités crétoises, hein, qui sont les magistrats en charge des affaires de la cité. Et le texte de loi préconise la non-réitération de la charge quand on a été cosme Cosme pendant un an, il faut attendre 10 ans pour pouvoir être à nouveau Cosme.
On peut la considérer comme la première loi constitutionnelle de l'Europe.
Oui, tout à fait, hein, puisque c'est une loi qui empêche le pouvoir personnel, tout simplement, et qui considère que tout citoyen doit accéder aux charges principales de la gestion de la cité. Et pour empêcher que le pouvoir tombe entre les mains de quelqu'un qui ne le quitte plus, on prend cette disposition qui interdit de se représenter plusieurs fois. Ouais. Donc c'est une loi très importante et qui montre que la cité de Dreyros, toute petite qu'elle est et toute pauvre qu'elle peut paraître,
est disparue d'Emmanuel,
est déjà une cité démocratiquement organisée dès le 7e siècle, ce qui est une date assez tôt et assez précoce et assez marquante, bien sûr.
Mais on peut peut-être sans exagération parler d'une découverte majeure pour l'histoire de l'humanité, parce que c'est bien avant la démocratie athénienne.
Oui, on est dans ces tentatives, alors c'est pas une tentative isolée, on en connaît plusieurs, de tentatives de ces cités, dans cette marche du pouvoir personnel transmis, partagé, de cette marche des communautés grecques vers le régime de la cité qu'on va voir évidemment se développer au 6e et exploser au 5e siècle avec en particulier le régime démocratique tel qu'Athènes va le pousser jusqu'au bout, sa logique. C'est un jalon très important dans ce processus qui met en place un régime dans lequel les membres ne sont plus des sujets mais sont des citoyens et par conséquent sont susceptibles d'accéder à toutes les charges et toutes les responsabilités de la cité. C'est évidemment un processus très important.
Oui, c'était la merveilleuse histoire de la stèle de Dreyros, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi la loi de Dreyros.
Voilà, tout à fait.
Et qui est aujourd'hui conservée.
Alors elle est
au
petit musée archéologique de Néapolis. Elle est présentée là, elle paraît toute humble, mais les enfants de Néapolis, de la ville de Néapolis, savent qu'ils ont la loi la plus ancienne, ils la connaissent d'ailleurs, ils en sont
très fiers. Être très fiers. Vous qui connaissez bien Néapolis, puisque vous avez vos quartiers généraux là-bas.
C'est effectivement là que la mission est installée.
Oui, mais on va parler des fouilles après. On a vu l'Agora, on a vu le temple Delphinios,
Apollo Delphinios.
Et puis, vous avez parlé de la citerne, les statuettes et l'état des lieux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description?
Alors, l'état des lieux, quand on est arrivé, n'était pas très favorable. Le site, donc, après 36, n'a plus suscité de fouilles pour deux raisons. La première, c'est que les fouilles sont vraiment très difficiles. On est en zone de montagne. À l'époque, on venait à pied de Néapolis, donc il fallait déjà faire 5 à 7 km à pied de montagne pour arriver sur le site. Et une fois sur le site, l'exploration est difficile. Une végétation abondante sur la pente nord, des pierriers énormes à déplacer... pas de moyen facile d'évacuer les terres et les pierres, donc vraiment de réels obstacles à l'exploration, d'une part. Et puis d'autre part, les Français en 1936 se sont lancés de manière importante dans la fouille du site de Malia, du site minoen de Malia, qui se trouve à une quinzaine, une vingtaine de kilomètres de là, et qui va mobiliser véritablement toutes les forces et l'énergie de l'école française d'Athènes, et en sorte qu'on admet qu'Adreros est un site un peu à part, étant donné que pour la Crète, dans ces époques-là, c'est d'abord la civilisation minoenne qu'on veut mettre au jour. Donc on abandonne un peu la fouille d'une cité, d'autant
tous
plus
que... Les moyens ont été concentrés sur le site minoen.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, on l'abandonne, et on l'abandonne jusqu'à aujourd'hui. Le site que moi, je connais depuis 1986, puisque c'est un des premiers sites que je suis allé visiter en commençant à travailler en Crète.
En quelle année, pardon?
1986. C'est un des premiers sites que je suis allé voir. Je n'ai même pas trouvé le site, tellement la végétation avait poussé et tellement les sentiers s'étaient refermés. Et l'Agora était quasiment devenue inaccessible. Alors le service archéologique a, lui et ma collègue en particulier, Vassos Zografakis et Vili Apostolakou, ont tout fait pour maintenir les abords du site nettoyés et accessibles et exercer la surveillance nécessaire pour que ce site reste à peu près indemne et pas atteint et pas touché, ce qui a été le cas. Mais les moyens techniques pour commencer de nouvelles fouilles étaient hors d'accès en raison des difficultés. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous avions mené plusieurs campagnes dans la région du Mirambello, en sur le site de Lato, et c'est surtout l'impulsion a été donnée par le maire de Néapolis, qui se trouve la cité la plus proche de Dreyros, la ville la plus proche de Dreyros actuellement. C'est le maire de Néapolis qui a voulu réintégrer le site de Dreyros dans le patrimoine de la ville de Néapolis et a rassemblé un peu les énergies. Il s'est trouvé que Vassos Zografakis était elle-même très demandeuse de reprendre les fouilles là-bas, et donc l'école française a été contactée par nos collègues grecs pour reprendre l'exploration du site. Et donc nous avons repris depuis 3 ans cette exploration dans des conditions pas faciles, mais avec beaucoup de bonheur.
C'est vraiment tellement merveilleux quand on a la chance, comme Canal Academy, enfin quelques personnes ont eu la chance de visiter ce site. C'est tellement merveilleux comme histoire et de réveiller une...
Oui, une ville endormie
et
complètement disparue. Oui, non, c'est sûr que c'est ça quelque chose quand on a commencé, puisque nous avons commencé d'abord par un plan topographique de l'ensemble des ruines, et quand on s'est rendu compte de l'ampleur du site, au départ l'intervention était prévue surtout de voir à peu quelle était l'étendue de la cité, son état général, une sorte de diagnostic qui nous avait été commandé et que nous avons réalisé dans un premier temps. Et on a été absolument étonnés à la fois de l'état des ruines qu'on arrivait à apercevoir, de l'ampleur de cette ville et puis de son abandon complet dans une végétation. À certains moments, on avait l'impression de redécouvrir encore. Enfin, c'était une végétation très dense qui, avec des racines en serrant des blocs, de gigantesques terrasses qui apparaissaient un peu partout. Et donc, on a compris que là, il y avait une possibilité d'avoir accès à une cité crétoise probablement conservée de manière intéressante pour les archéologues.
Vous dites une cité crétoise, mais qui était donc habitée par des Grecs
de
la Grèce continentale.
Par des Grecs,
à propos, est-ce qu'il y avait d'autres sites comme ça, archéologiques, de cités grecques?
Bien sûr, en Crète, on en connaît plusieurs. Bah, la plus proche, c'est la cité de Lato.
Elle n'est pas minoenne?
La cité de Lato, non, c'est une cité d'époque hellénistique. Non, il n'y a pas du tout de niveau minoen. Enfin, il y a peut-être, mais il y a un sanctuaire de sommet avec du matériel minoen qui se trouve à proximité. Mais la cité est une cité avec des niveaux d'époque archaïque et puis des niveaux d'époque hellénistique.
Parce que c'est un magnifique site.
Avec une agora, un prytané, une citerne, exactement comme Dreyros. Cité de Lato a été fouillée par Olivier Picard, qui est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, été le grand fouilleur de Lato dans les années 70. Avec son collègue suisse.
J'ai bien fait de vous poser cette question. Voilà. Bon, écoutez, après une autre courte pause avec toujours la musique crétoise, je vais vous inviter à nous parler un peu de votre propre parcours et puis aussi de vos joies et peines de fouilleur à Dreyros. Voulez-vous maintenant évoquer pour nos auditeurs votre propre parcours de spécialiste de la civilisation minoenne et aussi votre travail d'archéologue et à Malia, à Knossos et maintenant à Dreyros, votre rôle et votre mission sur place? Vous l'avez déjà un peu évoqué, faire des sondages sur place, dégager les chemins d'accès, explorer, nettoyer, restaurer, etc.
C'est un métier aux multiples facettes que je pratique en Grèce depuis 1986, après une expérience archéologique acquise en France et à l'étranger. Et j'ai fouillé un certain nombre de sites, en particulier sur l'âge du bronze au départ, qui était aussi sur le site de Malia avec un collègue belge, Yann Driessen. Nous avons fouillé un quartier d'habitation de l'âge du bronze dans la plaine de Malia, près de la mer, qui nous a permis de voir un petit peu des techniques de fouilles de maisons avec du matériel en place. Je suis allé ensuite travailler à Délos sur un site d'époque hellénistique, avec une ville d'époque hellénistique importante.
Oui, vous avez écrit aussi un livre sur l'île de Délos.
J'ai participé à un livre collectif sur Délos. Je me suis occupé des niveaux les plus anciens. Et là, j'ai appris à travailler sur des périodes un peu plus récentes. Et ce qui fait que ces dernières années, je travaille surtout sur des sujets de plus récents que l'âge du bronze. J'ai travaillé sur le site de Lato à la suite d'une demande de mes collègues grecs d'intervenir pour refaire le plan topographique de l'ensemble du site de Lato. Et c'est dans le cadre de cette collaboration avec le service archéologique de Daios Nikolaos que l'offre de travail à Dreyros et de reprendre les travaux à Dreyros a été faite. Et avec ma collègue Vassos Ographakis, nous avons mis au point un programme d'exploration du site de Dreyros qui a été validé par les instances officielles archéologiques grecques et par l'école française d'Athènes. Et donc depuis 3 ans, nous menons cette campagne dans des conditions, comme je le disais au début, difficiles puisque nous sommes loin, assez loin de tout. Les moyens mécaniques ne peuvent pas monter sur ces montagnes facilement. Nous sommes confrontés à des pierriers, une végétation très dense. Et donc, il faut être très nombreux pour arriver à des résultats.
Oui,
donc,
alors vous avez une équipe d'archéologues.
Oui, nous sommes des équipes alors composées d'étudiants, d'ouvriers, de collègues scientifiques spécialistes de différents secteurs, de paléo-environnement, géomorphologie, d'ostéologie, de céramique, qui intervenons. Nous sommes une équipe composée de topographes et architectes qui interviennent aussi. C'est une équipe qui s'installe pendant 2 mois à peu près, et 2 mois d'été. Enfin, moi, je prépare la campagne au mois d'avril.
Vous n'avez pas de clim là-bas?
Ah non, là-bas, il peut faire des températures très élevées, mais bon.
Il fait quelque chose comme 40 degrés. Très tôt le matin déjà.
Des moments assez difficiles.
Il n'y a pas beaucoup d'ombre.
Pas beaucoup d'ombre, non.
Oui.
Beaucoup d'eau, puisqu'on en a pas beaucoup.
Oui, on voit.
Donc, on s'installe pour les 2 mois d'été et il y a à peu près entre 20 et 45 personnes qui travaillent sur le site pendant ces 2 mois, qui interviennent sur tous les aspects, qui sont les aspects à la fois de désherbage et de débroussaillage et de déboisage pour avoir accès aux ruines, et puis ensuite de déplacement des pierriers, après de la fouille par sondage, de la fouille en extension, du relevé. de la restauration du matériel, du lavage du matériel, de son stockage et de son archivage. Donc c'est vraiment, nous avons une petite équipe qui est présente à Néapolis aussi pendant toute la campagne.
C'est toujours la même équipe ou
alors,
peut-être les étudiants
renouvelons beaucoup. Nous renouvelons les étudiants puisque nous en faisons un chantier école de formation des étudiants à la responsabilité de chantier. Nous prenons des étudiants au niveau du Master 2 et des doctorants. Et donc, nous les formons à la responsabilité de chantier, c'est-à-dire que nous les prenons à la fois comme fouilleurs, mais en même temps, nous les formons à la responsabilité de secteurs entiers. Ils sont encadrés par des spécialistes et nous leur apprenons progressivement à prendre des responsabilités dans la fouille, puisque la fouille est une stratégie qu'il faut avoir constamment. Il faut réagir vite aux découvertes. Il faut prendre des décisions rapides pour modifier un programme d'investigation quand on se rend compte qu'il n'est pas rentable ou qu'au contraire, il est très rentable et qu'il faut le modifier sur certains points pour faire face à cette rentabilité de façon à pouvoir assumer toutes les charges qui vont avec les découvertes.
Et à propos, quels sont les financements ?
Alors les financements sont des financements multiples, puisque une campagne comme cela est extrêmement coûteuse. Donc nous sommes très financés par l'École française d'Athènes, qui nous fournit un budget important. Et le budget est complété par des financements qui proviennent de la ville de Néapolis, qui nous aide énormément, aussi bien financièrement que matériellement, en nous prêtant du matériel, nous aidant à trouver du logement, en nous prêtant des bureaux, des accès informatiques, des machines. Enfin, ils sont extrêmement accueillants et très hospitaliers. Il y a une fondation américaine qui est la fondation Shelby White qui finance la reprise de fouilles anciennes pour mettre en valeur des ruines qui ont été un peu oubliées et qui nous aide énormément dans la mise en valeur et la restauration des anciennes fouilles. Et puis les universités françaises financent la venue d'étudiants et de collègues spécialistes, l'université de Strasbourg et l'université de Paris 4 Sorbonne qui financent par le prêt de matériel informatique et l'envoi d'étudiants et de bourses des étudiants pour venir travailler.
J'espère et je vous souhaite vraiment que les coupes drastiques maintenant qui passent dans les budgets de tous les pays ne vous affectent
nous
pas
épargner. Oui, ça,
trop
c'est la,
et
c'est
peut-être
la
pas
inquiétude.
Du tout.
En dessous d'une certaine somme, ce n'est pas la peine d'y aller parce que les efforts sont tels que si on ne monte qu'à 15 personnes, par exemple, on n'arrive à rien. Donc, ce n'est pas la peine.
C'est un trésor pour l'humanité ces fouilles.
Oui, ça vaut la peine à grande échelle et en étant sûr de pouvoir intervenir et faire face à tout ce qui sort d'important sur ce site.
Donc vous prévoyez encore des décennies
de longues années de travail sur et de longs étés sur le terrain.
J'espère que peut-être l'année prochaine, Canal Académie aura le plaisir de visiter à nouveau ce merveilleux site. Et dans ce magnifique paysage de ces montagnes, c'est quelque chose de vraiment magique
qui
nous inspire.
À tout moment de l'année d'ailleurs, que ce soit le mois d'été ou le mois de printemps,
absolument,
ce moment est magnifique
dans
ces montagnes,
oui,
tout à fait.
Et peut-être on pourra entendre, en tout cas inviter votre collègue Madame Vasso Sographaki, qui parle anglais, comme ça on pourra faire une émission en anglais et faire en quelque sorte une radio de Reros alors à Canal Académie.
Avec plaisir.
En tout cas, Alexandre Farnoux, un grand merci de nous avoir fait partager ces fabuleuses découvertes que vous avez eu le bonheur de vivre en tant qu'archéologue, de défricheur, comme on vient d'entendre. On pourrait dire, oui, s'agissant d'un site encore si peu exploré et qui conserve encore tant de merveilles enfouies. Alors, bonne continuation et encore beaucoup de belles découvertes. Merci encore.
Merci beaucoup.